VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza, heureux de vous retrouver encore une fois pour développer des points de l'actualité. 12h à Washington, 19h à Bujumbura, 17h à Ouagadougou, Burkina Faso. Bujumbura, la capitale burundaise, devient une ville où les morts sont quotidiennement ramassés dans les rues. Alors que l'on s'approche de la date butoir du 8 novembre, date à laquelle les gens armés doivent rendre les armes, 4 cadavres ont été retrouvés ce jeudi matin dans 2 quartiers au nord de Bujumbura. Des habitants des quartiers contestataires du nord quittaient ces quartiers par peur de leur sécurité. L'Union africaine se dit inquiète de la détérioration du niveau sécuritaire au Burundi. Les États-Unis appelant leurs ressortissants non essentiels à ne pas se rendre dans ce petit pays d'Afrique centrale. Nous avons joint tout à l'heure un des habitants qui a fui, c'est Mathias, son témoignage.
Je fuis la barbarie de nos forces de sécurité, des gens qui sont en tenue policière. D'après le discours du chef de l'État, avant-hier le 3 novembre, nous avons jusque samedi pour remettre les armes. C'est très bien que nous n'avons pas d'armes et ils nous demandent de les remettre samedi et que, passé ce délai, tous ceux qui se trouveront dans ce quartier seront considérés comme des ennemis de la nation. Alors actuellement, ce n'est plus le moment de prendre les déclarations de Pierre Nkurunziza à la légère. Il y a des actes qui ont déjà commencé. Hier soir, il y a un habitant de Tcharama qui passait à Mutakura, qui rentrait chez lui, qui a été assassiné sauvagement. Il n'avait commis rien comme faute, il ne faisait que passer. Maintenant, on se demande ce qui adviendra ce samedi. On se demande ce que signifie la déclaration du chef de l'État. On se demande ce que signifie les déclarations des ministres en charge de la sécurité, de la défense, etc. Quand ils menacent la population, clairement, et, bref, nous avons peur. Nous avons peur, nous attendons de voir ce qu'ils ont prévu de faire ce week-end. J'essaie de me mettre à l'abri, mais malheureusement, se mettre à l'abri où? Parce que, certes, au quartier, ils sont menacés, mais on se demande s'ils ne vont pas aussi nous poursuivre dans les autres quartiers où nous allons trouver refuge pendant ce week-end.
Mathias joint au sud de Bujumbura son refuge. Réaménagement constitutionnel de Burkina Faso, le CNT, le Parlement de la Transition, a procédé ce matin à la modification de plusieurs articles de la Constitution. L'article 37, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels consécutifs, a été verrouillé. Le Sénat intégré dans l'organisation institutionnelle du Burkina en mai 2013 a été supprimé. Pour le député Alexandre Sankara, il était nécessaire au sortir de l'insurrection de procéder à un toilettage de cette constitution.
L'article 37 a été verrouillé, comme on dit. Vous savez, dans notre constitution, il y avait des domaines qui n'étaient pas modifiables, des articles qu'on avait sacralisés. On a mis l'article 37 dedans. Et donc, désormais, on ne peut plus les modifier, sauf vraiment à passer à une nouvelle constitution.
Oui. Et quels sont les autres points clés en dehors de l'article 37?
Les autres points clés, c'est l'exculpation du Sénat, parce que le Sénat avait été déjà constitutionnalisé. Et comme c'était aussi un point de revendication pour des manifestants, alors le Conseil national de la transition a jugé bon de l'enlever de la Constitution.
Et puis il y a aussi la devise qui est revenue à la patrie,
oui,
ou la mort.
Oui, on a ramené la patrie ou la mort, nous vaincrons, en lieu et place de l'unité, progrès, justice. Ça aussi, c'est dans la logique de l'insurrection. Vous savez, les gens se retrouvaient à travers cette devise-là pendant tout le long des manifestations. Et même après le putsch manqué du 16 octobre, c'est cette devise-là que les gens chantaient.
Le député Alexandre Sankara a été joint par Bagassi Koura.
VOA Afrique en direct de Washington.
Et à l'est de l'Afrique, en Tanzanie, prestation de serment aujourd'hui du nouveau président John Magufuli. La cérémonie s'est déroulée à Dar es Salaam, la capitale économique, devant de nombreux chefs d'État africains et sous les applaudissements de la foule. Jacques Aristide.
Candidat du parti au pouvoir, John Magufuli a obtenu près de 60% des voix et largement devancé son principal rival, Edward Lowassa, à la présidentielle du 25 octobre. L'opposition affirme que le scrutin a été truqué, tandis que l'archipel semi-autonome de Zanzibar a annulé ses résultats en raison d'irrégularités présumées. Lors de sa prestation, justement, le nouveau chef d'État a dit espérer que le parti au pouvoir à Zanzibar et l'opposition puissent régler leurs différends à l'amiable, rapporte l'AFP. Il a également promis de sortir la Tanzanie de la pauvreté. Samia Suluhu Hassan a également prêté serment. Elle est devenue la première femme vice-présidente de la Tanzanie et a promis de faire tout son possible pour donner des conseils avisés et honnêtes au président. Ont assisté à la cérémonie le président en exercice de l'Union africaine, le Zimbabwéen Robert Mugabe et les chefs d'État du Kenya, Uhuru Kenyatta, d'Ouganda, Yoweri Museveni, du Rwanda, Paul Kagame, de République démocratique du Congo, Joseph Kabila, d'Afrique du Sud, Jacob Zuma.
En Ouganda, l'élection présidentielle aura lieu le 18 février. La commission électorale nationale a enregistré 8 candidatures, dont celle du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis près de 30 ans. Au Rwanda, le Sénat a commencé à examiner un projet de réforme de la Constitution qui peut permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Les députés l'avaient adopté le 29 octobre. Une fois adoptée par le Sénat, la Constitution remaniée sera soumise au référendum.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Ailleurs dans le monde, le Royaume-Uni préparait aujourd'hui le rapatriement de ses touristes de Sharm el-Sheikh au moment où le président égyptien rencontrait à Londres le premier ministre britannique. David Cameron a jugé plus que probable l'implication de l'État islamique dans le crash d'un avion russe dans le Sinaï. Le crash a fait 224 morts. Salwa Jafari.
Une déclaration du Premier ministre Cameron peu avant sa rencontre avec le président égyptien en visite à Londres. Cameron a annoncé la suspension des vols britanniques en partance pour Sharm el-Sheikh, bien que l'investigation soit toujours en cours. Il dit s'être basé sur des renseignements dont il n'a pas précisé la source. Pour sa part, le Kremlin a qualifié de spéculation les différentes hypothèses émises autour du crash en scepticisme partagé par les Égyptiens. Quant à Washington, on privilégie la thèse de l'implication de l'État islamique. La chaîne d'information CNN a cité plusieurs hauts responsables américains suggérant qu'une bombe aurait été placée à bord de l'avion par l'État islamique ou l'un de ses affiliés. Ils ont toutefois précisé que les services de renseignement américains n'ont pas examiné les preuves relevées sur les lieux du crash.
Salwa Jafari, les futurs, en Égypte toujours, le ministre des Transports a nié les explications du gouvernement britannique, disent que c'est très tôt pour tirer des conclusions et l'enquête se fait dans la transparence, dit-il. Et les futurs ministres au Nigeria ont averti jeudi, lors d'une rencontre avec le président Muhammadu Buhari, qu'aucun manquement à la loi ne serait toléré et qu'ils devront se montrer économes. Les 36 membres désignés pour former le futur cabinet se sont réunis pour la première fois depuis leur nomination fin septembre par le président Buhari, élu en mars et qui a pris ses fonctions fin mai. Ils ont obtenu l'aval du Parlement le mois dernier. Les portefeuilles ministériels doivent leur être distribués prochainement pour constituer enfin le premier gouvernement de M. Buhari. L'Union européenne a signé jeudi un accord d'un montant de 23 millions d'euros avec le gouvernement tunisien pour soutenir la réforme et la modernisation du secteur de la sécurité dans ce pays en proie à la menace djihadiste. Ce programme signé par l'ambassadeur de l'Union européenne, Laura Beza, et le ministre de l'Intérieur, Najen Garsali, revêt un caractère pilote et accompagnera la Tunisie dans la mise en œuvre de la réforme et du secteur de la sécurité en développant une doctrine sécuritaire en phase avec les valeurs économiques, a déclaré Madame Beyza. Conflit en Ukraine, les séparatistes et pro-russes de la République rebelle de Donetsk ont annoncé ce jeudi avoir achevé la dernière étape du retrait de leurs armes le long de la ligne de front prévue par un accord conclu fin septembre entre les belligérants pour consolider la trêve dans l'est de l'Ukraine. De leur côté, les forces ukrainiennes prévoient d'achever le retrait le 7 novembre. Et un pêcheur palestinien a été tué ce jeudi par des tirs de la marine égyptienne en Méditerranée entre les eaux territoriale de l'Égypte, de la bande de Gaza, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne, a rapporté l'AFP. Et cette personne, dont un jeune marin pêcheur français, soupçonné d'organiser des passages illégaux de migrants au départ du nord de la France et à destination de l'Angleterre à bord d'un bateau pneumatique, ont été inculpés et écroués, a annoncé jeudi le parquet de Lille, site AFP. Fin de ce journal, le prochain dans 20 minutes avec Gabi Dorsil et Morgane Guiriec dans le
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.